France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump veut-il quitter l'OTAN ? Le président américain multiplie les critiques contre l'Alliance Atlantique avant un discours très attendu ce soir à Washington. Nous ferons le point avec Franck Madvon dans un instant. Depuis le Japon, Emmanuel Macron a répondu au locataire de la Maison Blanche qui accuse la France d'interdire le survol de son territoire aux avions américains. La France n'est pas en guerre, a réaffirmé le chef de l'État. Le gouvernement évoque des surplus de recettes fiscales avec la flambée des prix du carburant, mais il ne donne aucun chiffre sur le montant de ces surplus qu'il compte utiliser pour accélérer la décarbonation de l'économie. Raphaël Arnaud revient à l'Assemblée et s'explique sur son silence depuis la mort de Quentin Derenque à Lyon. Le député insoumis veut poursuivre son mandat malgré les appels à sa démission. C'est peut-être un tournant dans la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump s'adressera au peuple américain ce soir. Il sera 3h du matin en France. Une allocution solennelle pour officiellement donner de nouvelles informations importantes sur l'Iran. Le président américain, qui parle tous les jours sur le conflit, a assuré tout à l'heure que son homologue iranien avait demandé un cessez-le-feu. La télévision d'État iranienne dément à l'instant avoir formulé une telle requête. Donald Trump sera aussi très attendu ce soir sur la question de l'OTAN, lui qui multiplie les critiques sur l'Alliance Atlantique, accusé d'être un tigre de papier, incapable d'intervenir pour libérer le détroit d'Ormuz. Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Correspondant à Washington, Franck, Donald Trump envisage-t-il sérieusement un départ des États-Unis de l'OTAN ?
Oui, vous savez, Donald Trump parle beaucoup, il donne un grand nombre d'interviews, parfois quelques minutes seulement au téléphone. Et aujourd'hui, une de ses interviews retient en effet l'attention. Il dit au Daily Telegraph, le journal britannique, qu'il réfléchit sérieusement à sortir les États-Unis de l'OTAN. Ce serait évidemment une décision majeure, la fin de l'Alliance Atlantique. Depuis 2-3 semaines, le président américain s'acharne sur ses partenaires de l'OTAN, en particulier le Royaume-Uni, la France. Il estime que ces pays n'aident pas Washington, qui leur a pourtant demandé du soutien pour mener les opérations en Iran et libérer le détroit d'Ormuz. En résumé, pour Donald Trump, si l'Alliance n'est pas présente pour les États-Unis, eh bien les États-Unis n'ont aucune raison d'offrir une protection à leurs alliés. Pour rappel, précisons-le, les Américains n'ont jamais consulté les membres de l'OTAN avant de lancer la guerre. Hier, le secrétaire d'État Marco Rubio, une voix plutôt modérée au sein de l'administration s'agissant des liens avec l'Europe, a parlé d'une alliance à sens unique, une relation qu'il faudra réexaminer. Alors Donald Trump va-t-il pour autant annoncer un retrait de l'OTAN ? Ce serait très étonnant, les périodes orageuses ont souvent été suivies d'accalmie dans les relations transatlantiques et il faudrait un vote du Congrès, notamment les deux tiers du Sénat, pour valider un tel retrait. Mais on ne peut bien sûr écarter aucune hypothèse. Le discours de Donald Trump peut réserver une annonce majeure ou être un simple point d'étape destiné aux Américains après un mois de guerre.
Ah, merci Franck Madvon depuis Washington. Dans ses critiques à répétition contre ses alliés de l'OTAN, la France est une cible de choix pour Donald Trump. Elle est très peu coopérative, avait-il accusé hier, reprochant à Paris d'avoir interdit le survol du territoire français à des avions militaires américains en partance pour Israël. Interdiction confirmée par Emmanuel Macron, actuellement en déplacement au Japon. La France n'est pas en guerre, a réaffirmé le chef de l'État à la NHK, la télévision publique japonaise. Paul Barcelone est notre envoyé spécial à Tokyo.
Pas question de se laisser entraîner dans cette guerre. Emmanuel Macron assume, la France a bien interdit le survol de son territoire par un avion militaire. Et tant pis si Donald Trump s'en est ému.
La France, qui n'a pas été consultée, qui ne fait pas partie de cette offensive militaire lancée par les États-Unis et Israël, n'y prend pas part. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est vrai depuis le premier jour. Donc il ne faut pas s'en étonner.
Et pourtant, le président américain jure de quitter l'Iran très bientôt, promettant la fin de la guerre d'ici 2 ou 3 semaines. Emmanuel Macron, lui, appelle à la reprise du dialogue pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, symbole de la riposte iranienne.
Et rien ne serait pire que d'avoir bombardé la région pendant des semaines et des semaines et de la quitter sans qu'un cadre soit à nouveau établi. Nos pays, avec plusieurs autres pays d'ailleurs, d'Asie, du Proche-Moyen-Orient ou d'Europe, peuvent jouer un rôle qui consiste à s'assurer que le transit se fait bien à travers Ormuz. C'est pas du tout une option militaire.
Emmanuel Macron joue donc la prudence au Japon, pays pro-américain. Le président veut trouver ici des alliés, se placer comme une puissance fiable, comme demain d'ailleurs en Corée du Sud. Bref, convaincre que la seule issue possible ne passe pas que par les États-Unis d'un Donald Trump jugé plus imprévisible que jamais.
Paul Barcelone, envoyé spécial de France Culture au Japon. Porté par l'espoir d'une issue proche à la guerre et en attendant l'allocution de Donald Trump, les marchés boursiers reprennent des couleurs. Ils sont en légère hausse à Paris, Francfort, Londres ou Milan. Et le pétrole recule. Le baril de Brent revient aux alentours de 100 dollars. Mais ce pétrole avait tellement augmenté depuis le début de la guerre que les compagnies pétrolières et les États ont engrangé des recettes supplémentaires. S'agissant des États, la hausse des prix des carburants a permis de faire rentrer de nouvelles recettes fiscales, à tel point que le gouvernement français a évoqué ce matin un surplus, une manne que le Premier ministre Sébastien Lecornu compte utiliser pour décarboner l'économie. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le gouvernement ne chiffre pas ce surplus. Peut-on malgré tout l'évaluer ?
Alors, la question est posée depuis plusieurs jours, voire semaines au gouvernement, sans que pour le moment la presse ou la classe politique n'ait eu de réponse. Pour la transparence promise, que ce soit par le ministre de l'économie Roland Lescure ou celui du compte public David Amiel, il faudra attendre le 21 avril, date à laquelle est programmé le comité d'alerte sur les finances publiques avec l'ensemble des parlementaires et des partenaires sociaux. D'ici là, eh bien, tout le monde a sa propre idée. Le LR, Laurent Wauquiez, par exemple, évalue ce surplus fiscal entre 2 et 3 milliards d'euros. Pour éviter la surenchère, Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, assurait ce matin au sortir du Conseil des ministres que ces surplus ne se comptent pas en milliards. Alors, des simulations ont été faites par des économistes. Par exemple, s'il y a une hausse de 30% du prix du carburant, cela fait rentrer 4,6 milliards d'euros de TVA. Mais attention, les taxes sur le carburant sont de deux natures, environ 60% du montant payé à la pompe par les consommateurs correspondent effectivement à deux principales taxes prélevées par l'État, la TVA, on vient de le voir, mais aussi l'accise. Elle est payée par les professionnels qui gèrent la production, l'importation et le stockage du pétrole. Et cette taxe est fixe car inscrite dans la loi de finances chaque année. Et sous l'effet de la baisse de consommation actuelle, elle est à retrancher des recettes de l'État, donc 3 milliards d'euros d'accise. Alors si vous me suivez bien, Stanislas, ça ne nous fait plus que 1,6 milliards d'euros qui vont dans les caisses de l'État. Cet accroissement des recettes publiques sur le carburant réel dans un premier temps est donc à relativiser par la baisse de la consommation. Alors à la question combien l'État se met dans la poche avec cette crise pour mettre fin au fantasme, voilà la réponse aux députés déjà la semaine dernière du ministre de l'économie Roland Lescure lors de son audition devant la commission des finances publiques de l'Assemblée nationale.
Franchement sur la partie fiscale, attention, mécaniquement vous avez raison. On consomme moins d'essence, donc l'assise baisse. Il y a une partie de la TVA qui baisse parce qu'elle est assise sur le volume, mais l'effet prix est positif, marginalement. Mais il y a tout le reste. Il y a des recettes de l'État qui vont baisser, il y a des dépenses sociales notamment qui vont monter. C'est ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, qui fait que la croissance étant marginalement plus faible, on va avoir moins de recettes. Donc vraiment, hein, je le répète, et c'est pas par mauvaise volonté, mais il n'y a pas un choc pétrolier qui a donné de l'argent à l'État.
Roland Lescure, le ministre de l'économie. Merci Annabelle Grelier. Alors comment utiliser cette manne financière ? La volonté du gouvernement de s'en servir pour décarboner l'économie fait débat au sein de la classe politique. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Des voix s'élèvent pour réclamer une baisse des prix à la pompe alors que d'autres veulent taxer les compagnies pétrolières.
Oui, alors il faut faire une différence entre mesures d'urgence et mesures de long terme. Voici comment Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, expliquait l'utilisation de ce fameux surplus qui se chiffrerait donc en millions d'euros et non pas en milliards.
Si nous devons, face à cette crise, dépenser de l'argent public, et nous le faisons déjà, alors cet argent public ne peut pas uniquement servir à des réponses de court terme, mais doit aussi servir vers des réponses de long terme, parce que c'est ces réponses de long terme qui permettront de nous protéger de la prochaine crise.
Un plan d'électrification, donc. Les ministères sont censés soumettre leurs propositions d'ici le 8 avril. C'est ainsi que le ministre de l'économie, Roland Lescure, doit mettre en place dans les semaines qui viennent une offre de location de véhicules électriques dédiés à certaines professions comme les infirmiers libéraux. Ce n'est pas ce que retiendront les oppositions. Ce que voulait retenir Marine Le Pen de la séquence gouvernementale au micro de France Info ce matin, c'est...
un mensonge, vous voyez. Alors, il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement. La première des choses à faire, c'est se servir, en fait, de ces recettes supplémentaires et y renoncer, déjà. C'est la première des choses en baissant la TVA et accessoirement les taxes sur les carburants.
Et privilégier donc des mesures d'urgence, mais ce que propose le RN aurait un trop lourd impact sur les finances publiques, selon le gouvernement. Jugement partagé par le Parti Socialiste qui milite toutefois pour des chèques énergie ciblés en faveur des ménages les plus vulnérables, tout comme les écologistes. Autre mesure exigée par la France Insoumise, le blocage des prix pour une durée de 3 mois. Une proposition de loi a été déposée en ce sens. Le Parti communiste a fait de même. Le blocage serait valable 6 mois. Le gouvernement n'envisage pas ces hypothèses. En revanche, parmi les mesures d'urgence, il n'a pas fermé la porte à de nouvelles aides ciblées pour certains secteurs professionnels.
Nicolas Ballu, service politique de France Culture. Raphaël Arnaud est de retour à l'Assemblée à l'occasion de la reprise des travaux parlementaires après la pause liée aux élections municipales. Le député LFI avait disparu de la circulation après le lynchage mortel de Quentin de Ranque. Ce militant identitaire tué à Lyon le 12 février dernier. Deux de ses anciens collaborateurs ont été mis en examen dans cette affaire. Deux hommes proches de la Jeune Garde, le mouvement antifasciste fondé par Raphaël Arnaud et dissous par le gouvernement en juin dernier. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Plusieurs responsables politiques avaient appelé à la démission de l'élu insoumis après le drame de Lyon. Raphaël Arnaud est toujours député ce soir et il s'en explique ce matin aux médias en ligne Blast, un média classé à gauche.
Oui, Raphaël Arnaud se dit désormais prêt à reprendre ses fonctions de député.
C'est pour cette raison-là que je sors du silence et que il y a un besoin tout simplement de retourner au travail.
L'élu insoumis est d'abord interrogé sur son quasi-silence depuis la mort de Quentin de Ranque.
J'avais pas la sensation que de prendre la parole dans ce moment, ça aurait été très opportun pour apaiser les choses. J'avais une peur affreuse qu'il y ait une violence qui s'embrase dans le pays.
Il rappelle qu'il n'était pas présent au moment du drame, pas au courant de cet affrontement. Mais il faut attendre plus d'une heure d'interview pour que la journaliste le questionne sur ses liens avec deux des mis en cause et notamment son collaborateur parlementaire Jacques-Élie Favreau.
Je le connais bien. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu ça, quoi. Il n'aurait jamais voulu qu'il y ait une telle violence qui se déchaîne sur la fin, justement, de cet affrontement, etc. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est retrouvé là.
Raphaël Arnaud est mu aux larmes quand il aborde le contexte politique à Lyon et s'indigne des débats politiques qui ont suivi le drame.
Cette espèce d'inversion des valeurs, de faire croire que l'ennemi, ce serait l'antifascisme.
Il replace les chiffres de la violence politique, 57 morts depuis 1986, 52 du fait de la droite radicale, 5 sont imputés à la gauche radicale. Alors s'il peut y avoir des erreurs, reconnaît Raphaël Arnaud, elles ne doivent pas résumer selon lui l'antifascisme.
C'est antinomique à ce qu'on propose avec la Jeune Garde depuis des années. On ne doit pas répondre avec cette violence-là, jamais, jamais, jamais.
Au moment de sa dissolution, Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, reprochait notamment à la Jeune Garde de provoquer à des agissements violents, ce que conteste le mouvement devant le Conseil d'État qui rendra sa décision dans les prochains jours.
Jeanne Serrin, merci. La France Insoumise retrouve Raphaël Arnaud mais perd un autre député, Loïc Prud'homme, élu LFI de Gironde, annonce son départ du parti de Jean-Luc Mélenchon. Il évoque des divergences d'appréciation avec la stratégie déployée depuis 2022, Loïc Prud'homme pointe notamment, je cite, les saillies répétées de Jean-Luc Mélenchon, dont les plus récentes. Le chef insoumis très critiqué ces dernières semaines pour avoir ironisé sur la prononciation d'Epstein ou bien de Glucksmann. Un événement ce soir dans l'actualité économique, la renaissance d'une marque française héritée des débuts de l'informatique. L'État relance Bull, à l'origine fabricant d'ordinateurs pour les entreprises qui avaient été intégrées au groupe Atos en 2014. À la faveur de la vente à la découpe d'Atos, l'État a donc racheté son activité la plus stratégique, les supercalculateurs, le calcul quantique et l'intelligence artificielle, pour environ 404 millions d'euros. Des activités qui seront donc réunies sous la marque Bull, qui connaîtrait ainsi une deuxième nationalisation. Camille Magnard, l'histoire se répète.
L'histoire de Bull, c'est à la fois celle d'une entreprise fondée en 1930 autour de machines programmées avec des cartes perforées qui, à la fin des années 50, se voyait déjà concurrencer l'américain IBM dans les temps pionniers de l'informatique moderne. Mais c'est aussi une succession d'erreurs stratégiques et technologiques qui l'ont conduite à être sauvée à plusieurs reprises par l'État français. Déjà au début des années 1960, celui-ci avait dû recapitaliser Bull après une première bataille de brevets remportée par IBM. Déjà, il était question de garder en France le champion national dans un secteur si stratégique, mais ça n'avait pas empêché la cession, 2 ans plus tard, de l'entreprise aux Américains de General Electric, puis Honeywell. De retour en France en 1974, allié à l'européen C2I, Bull a connu plusieurs échecs commerciaux. Et en 1982, c'est une entreprise criblée de dettes que l'État a nationalisée une première fois pour la reprivatiser 12 ans plus tard, constatant le gouffre qu'elle était devenue pour les finances publiques. Aujourd'hui, c'est à nouveau dans un moment de crise chez Atos que Bercy sort le carnet de chèques, mais l'enjeu de souveraineté reste le même. C'est avec le logo Bull que sera mis en service l'an prochain le supercalculateur dernière génération qui permettra au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, de piloter toute la dissuasion nucléaire française. Et par les temps qui courent, l'État ne peut laisser à des Américains ou à des Chinois des activités aussi sensibles pour la sécurité nationale.
Camille Magnard, merci. La facture Cigéo explose. Cigéo, c'est ce projet très contesté d'enfouissement des déchets radioactifs les plus dangereux à Bure dans la Meuse. Évalué en 2016 à 25 milliards d'euros, il coûterait en fait 33,36 milliards d'euros selon un arrêté publié aujourd'hui au Journal officiel. Le projet prévoit d'enfouir à 500 mètres sous terre 83 000 mètres cubes de déchets produits par les centrales nucléaires. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Alors pourquoi une telle hausse de la facture ?
Parce que tout augmente, et surtout dans le nucléaire, et que les conditions économiques des années 2010 ne sont pas les mêmes qu'en 2025. C'est ce qu'explique Gaëlle Saquet, c'est la secrétaire générale de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, porteuse du projet.
À conditions économiques et périmètres comparables, en fait, le coût n'a augmenté que de 15% par rapport au précédent arrêté. Et depuis la dernière évaluation, une dizaine d'années, forcément, l'inflation est passée par là. Et est venu finalement à accroître de façon visuelle le coût du projet. Mais ce n'est pas un surcoût en tant que tel du projet de stockage géologique Cigéo.
Du côté des opposants, cette réévaluation du coût est un non-événement pour Angélique Huguin, coordinatrice du groupe juridique contre le projet Cigéo. Il y aura d'autres dépassements de coûts.
Dans les années qui viennent, un prochain décret nous annoncera que finalement le coût est plus élevé, comme l'industrie nucléaire en a l'habitude avec tous ces projets. On constate, nous, au regard du dossier, que dans tous les cas, c'est déjà sous-évalué. Sur un projet qui est annoncé pour 150 ans, vous doutez bien qu'il va avoir plein de crises lors de son chantier et qu'il y aura forcément une explosion des coûts, comme ça a été le cas pour l'EPR de Flamanville. Ce décret s'inscrit en fait dans un processus d'accélération que l'on constate, et notamment avec l'enquête publique qui est avancée au mois de mai au lieu du mois de décembre, au mépris en fait de la démocratie et de toute rationalité économique.
La mise en service de Cigéo n'est pas prévue avant 2050, avec une durée de vie jusqu'en 2170. On ne sera pas là pour en parler.
Véronique Robérotte, spécialiste des questions d'environnement à la rédaction de France Culture. Plusieurs drames de la migration aujourd'hui dans l'actualité. En mer Égée, 19 migrants afghans, dont un bébé, ont péri noyés dans le naufrage de leur canot pneumatique au large de la Turquie. En Méditerranée, au large de l'île de Lampedusa, les gardes-côtes italiens ont retrouvé 19 corps dans un bateau qu'ils venaient de secourir. Enfin, au large de Gravelines, dans le Pas-de-Calais, deux migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la Manche. Radio France réorganise sa présence sur la bande FM pour faire des économies, car les moyens pour écouter la radio évoluent très vite avec la montée en puissance du numérique. La direction de notre groupe l'a annoncé hier aux représentants du personnel. Une réorganisation programmée à la fin de l'été avec un double objectif, Éric Chavroux, moderniser la distribution et répondre aux besoins en cas de crise.
C'est une bascule vers de nouveaux usages pour près de 4 millions d'euros d'économies par an dans un contexte toujours plus contraint pour l'audiovisuel public. Environ 300 émetteurs FM, soit 12% du parc de Radio France, vont être restitués aux régulateurs de l'audiovisuel, l'ARCOM, et les auditeurs seront fortement encouragés via une grande campagne de communication à changer leurs habitudes pour privilégier le DAB+. Cet équivalent en radio de la TNT couvre actuellement 2/3 de la population, quand l'ARCOM a fixé à l'ensemble des radios l'objectif de basculer au tout numérique en 2033, avec d'une part le DAB+, et de l'autre Internet. Bénéficiaire du plus ancien réseau en FM, France Musique y sera la plus lésée à la fin de l'été, avec à terme environ 70% de couverture de la population, en FM donc, contre 93% aujourd'hui. Certaines de ces fréquences et l'ensemble de celles de la radio pour les jeunes MOVE seront donc restituées, Mais d'autres devraient profiter à France Info et aux radios locales d'ici. Et mon petit France Inter, fer de lance désormais de Radio France pour les enfants, remplacera Move sur le DAB+. La présidente de Radio France, Sybille Veil, justifie notamment cette redistribution par les attentes de l'État en cas de crise, mettant en avant le blackout géant d'il y a un an en Espagne et au Portugal, mais aussi la montée de la guerre informationnelle.
Éric Chavroux, merci. Le temps demain, un ciel encore nuageux et faiblement pluvieux sur une large partie ouest.